Vous avez sans doute profité de tout ce temps pour lire, pour avancer très loin maintenant, dans l'Asie. Non, pas encore. Et est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a déjà vu, les trois ou quatre premiers chapitres à peu près, hein, finalement, là qu'on en était? Alors, petit à petit, je mets en ligne sur le site web le détail de quelques explications des cours. Et j'avais un peu de retard parce qu'il y a d'autres choses à l'université. Et donc, j'ai mis hier soir en ligne le détail du troisième cours, donc juste avant la Golden Week. Et puis, j'ai bien commencé celui d'aujourd'hui. Donc, vous l'aurez sur le site web dans quelques jours. Mais évidemment, on va voir ça en détail aujourd'hui. Donc, soit au début du cours ou après, si vous trouvez des détails aussi dans le site web, vous pouvez poser d'autres questions, bien sûr. Alors, juste avant les vacances, on s'est occupé donc de la fugue de Zazie. Zazie s'est enfui le matin du samedi, donc je suppose, dans la rue. Elle a été rattrapée par Turando, qui a eu une mauvaise aventure, traitée de satire. Et Zazie a réussi à s'enfuir de nouveau. Elle a alors rencontré un homme bizarre, qui restera bizarre très 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 longtemps, et dont l'identité restera elle-même problématique, complexe, tout au long du livre. Donc, le choix de Raymond Queneau de ne pas nous dire son nom, d'être toujours très ambigu sur l'identité de cette personne, est un choix de stratégie littéraire. C'est un effet littéraire volontaire pour masquer, brouiller, peut-être déranger les lecteurs. Les lecteurs aiment bien les identités claires et fixes, avec un nom, avec une origine, avec un âge, un sexe, etc. Et bon, alors, cet individu est décidément masculin, mais son nom, sa fonction, son métier restent des choses problématiques. Et cette situation va créer autour de lui des problèmes pour les autres. C'est-à-dire d'abord avec Zazie, qui s'interroge pour savoir si c'est un satyre ou un flic, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui s'attaque aux enfants, ou au contraire, quelqu'un qui devrait défendre et s'occuper d'une enfant perdue. Et l'ambiguïté restera. Ils vont ensemble au marché aux puces, devant le souhait, la fascination de Zazie pour les pantalons de jeans de surplus américains, l'homme achète des pantalons pour Zazie, une paire de jeans. Là aussi, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est simplement pour faire plaisir à un enfant? Est-ce que c'est pour l'attirer dans un piège? Est-ce qu'il y a autre chose? Puisque un peu plus tard, il dira chez Gabriel qu'il est vendeur au surplus et qu'il s'appelle Pedro Surplus. Un nom tout à fait ridicule, Pedro Surplus. Surplus, c'est un mot assez courant en France pour des magasins qui vendent des articles qui proviennent de stocks démarqués, dégriffés, comme on dit aussi, soit de grandes marques, soit de stocks militaires, par exemple. Et donc les magasins qu'on appelle surplus américains sont des magasins qui, comme c'est écrit d'ailleurs dans le livre ou dans la note, vendaient des articles amenés en quantité énorme par l'armée américaine dans sa campagne hein, de, de, de défense et de reconquête de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, les États-Unis ont gardé pendant très longtemps des bases militaires en France, en Allemagne, dans quelques autres pays d'Europe, également au Japon. Le problème existe encore, j'ai entendu la semaine dernière, avec Okinawa, puisque le Premier ministre japonais avait promis de fermer les bases et finalement dit que c'est trop compliqué, que, etc. Donc, je pense que la population japonaise n'est pas très satisfaite. Bon, c'est pas le sujet, mais finalement, ce n'est qu'une continuation d'une situation qui dure depuis bientôt 60 ans maintenant. Donc, ces surplus américains, ces magasins qui vendent des stocks de vêtements militaires, sont également connus au Japon. Ça existe aussi. Et bien sûr, à Paris, dans des puces, donc des marchés aux puces, des marchés où on vend des marchandises qui ont déjà servi ou qui proviennent d'origines un peu étranges ou suspectes et qui peuvent être vendues de cette façon. Alors, je crois qu'au Japon, pendant très longtemps, il n'y avait pas ou très peu de puces, de marchés aux puces, mais dernièrement, enfin, je ne sais pas, depuis 10 ans, 15 ans, ça se développe quand même. Dans Tokyo, il y a quelques marchés aux puces célèbres, surtout pour les étrangers qui vont y acheter des choses, mais de plus en plus de Japonais aussi s'y intéressent. Alors, je l'ai vu avec des amis japonais, souvent le problème d'acheter quelque chose dont on ne connaît pas l'origine, qui n'est pas neuf, est aussi un problème de superstition, ou de pensée. Par exemple, un objet qui a appartenu à quelqu'un qui est mort, eh bien, ça peut poser un problème pour des Japonais en fonction de leurs croyances, de leurs habitudes de vie. Et c'est vrai qu'en France, cette question ne se pose pas tellement. Parfois, le problème de la maison où quelqu'un est mort, on hésite à acheter, mais même ça, c'est assez peu fréquent en France. Donc là, ce sont vraiment des modes de pensée très différents. Donc la popularité des puces autour dans certains quartiers de Paris ou autour de Paris correspond bien à un mode de vie français, parisien, et maintenant dans toutes les villes de province. J'ai pu le vérifier récemment à Orléans, il y a chaque samedi matin des puces dans un quartier ou un autre. Voilà donc pour cette habitude, cet élément culturel des puces. Donc on en était resté là, à la fin de ce chapitre, et Zazie a commencé à raconter son histoire familiale. Alors comme je disais l'autre jour, ça se fait sous la forme littéraire de deux flashbacks. Un premier flashback qui renvoie au moment du procès, avec une sorte de suspense de Zazie qui maîtrise parfaitement l'art de raconter une histoire, d'attirer le public en disant « Ah oui, vous avez entendu parler de la couturière de Saint-Mauron ?» Non, pas du tout. Ça marche pas très bien, son suspense. Mais bon, elle essaye plusieurs choses pour attirer et pour faire en sorte que le type, donc elle l'appelle le type, le type souhaite qu'elle raconte son histoire. Alors, c'est un peu quelque chose que tout le monde souhaite. Quand quelqu'un raconte une histoire en famille ou avec des amis, on souhaite d'abord que les autres s'intéressent à l'histoire avant de la raconter. C'est un phénomène assez courant. Et si vous commencez à raconter une histoire à quelqu'un qui ne s'y intéresse pas beaucoup, vous n'êtes pas très motivé. Donc il faut d'abord commencer par susciter l'intérêt de l'autre par quelques détails, quelque chose d'attirant, de séduisant dans l'histoire. Et le titre, en quelque sorte, de Couturière de Saint-Mauron est une sorte de titre classique, disons, en France, de ce qu'on appelle les faits divers. Évidemment, dans la catégorie crime, hein, ou criminel, fait divers criminel. Alors, il y a des journaux en France qui vendent uniquement ce genre de choses, hein, qui ne sont pas sérieux comme Le Monde ou Libération, mais qui racontent plutôt des histoires de crimes, des histoires de famille, des histoires de disputes, de bagarres, ou parfois, comme on dit, de chiens crevés, c'est-à-dire des nouvelles de très très basse importance, hein, comme le chien qui serait mort là, dans la rue, pour qu'on sache à qui il appartient, etc. Donc il y a plusieurs degrés. Bien sûr, les gros titres de journaux se font avec ce genre de titre, « La couturière de Saint-Mauron ». Et là, tout le monde se demande, hein, qu'est-ce qu'une femme en apparence sans danger, hein, comme une couturière, a bien pu faire commettre comme crime. Alors, dans ces mêmes années 1950, et par la suite 1960 avec plus de succès, par exemple, Marguerite Duras, que Raymond Queneau connaît bien, a écrit un texte, une pièce de théâtre, et qui était aussi un récit, je ne sais plus lequel est en premier, qui s'appelle « L'amante anglaise ». L'amante, hein, le féminin de amant, amant, amante, et anglaise. C'est une histoire, en effet, de crime sordide. Des policiers interrogent une femme pour savoir comment il se fait que son mari a été retrouvé coupé en plusieurs morceaux dans des sacs plastiques qui étaient dans des trains. Et des trains qui sont allés dans différentes villes. Donc on a coupé un corps en plusieurs morceaux, on a mis chaque morceau dans un sac plastique et chaque sac plastique dans un train différent, en pensant que la police ne pourrait jamais trouver l'origine. Mais les policiers avaient simplement tracé l'itinéraire des trains et trouvé un point commun où tous les trains étaient passés, et autour de cet endroit, on a trouvé une femme dont le mari avait disparu. Et elle a avoué, c'est le récit de Marguerite Duras, hein, le personnage donc avoue qu'elle a tué et découpé son mari pour le jeter en morceaux, bon, parce qu'elle ne le supportait plus. Et Marguerite Duras s'intéressait beaucoup à ce genre d'histoire qui, en apparence très sale, dégradante, dégoûtante, etc., mais révèle un problème profond de la vie humaine qui est de ne plus supporter la personne avec qui on vit depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, hein, et qui amène à commettre ce genre d'acte tout à fait incroyable. Alors, c'est finalement très très rare, extrêmement rare, bien entendu. Certains d'entre vous vivent peut-être avec quelqu'un depuis 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, et même s'il y a un peu de lassitude ou de distance qui peut exister, on n'a pas spécialement envie de couper l'autre en morceaux ou de le tuer, hein, plus simplement. Donc il y a très peu de cas, mais par ailleurs, il y a beaucoup de livres et beaucoup de films. Parce que bon, c'est vrai qu'une histoire d'amour banale, ça ne fait pas un bon sujet pour un livre, hein, ou pour un film. Donc voilà la disproportion entre la quantité réelle et la quantité dans des œuvres de fiction littéraire ou cinématographique. Voilà, donc le livre de la pièce de théâtre de Marguerite Duras a eu beaucoup de succès. Elle est toujours quelque part dans un théâtre en France, et si vous souhaitez le lire, vous trouverez ça dans les œuvres de Marguerite, dans la médiathèque. Ça se lit d'ailleurs très facilement, je crois plus facilement que Queneau, parce qu'il n'y a pas tout ce problème de langage chez Marguerite Duras. Je signale en particulier Duras, parce que bien sûr d'autres écrivains racontent ce genre d'histoire, parce que Raymond Queneau a beaucoup aidé Marguerite Duras. Il l'a reçue chez Gallimard, il l'a conseillée pour écrire d'une façon un peu différente, et son premier grand succès, un barrage contre le Pacifique, vient en partie des conseils de Raymond Queneau, qui était donc secrétaire de la maison Gallimard. Donc voilà quand même une relation très, très fine entre les deux. Alors, avant de commencer le texte d'aujourd'hui, ou de finir avec l'histoire de Zazie, je vous propose de voir un extrait du film qui correspond au retour de Zazie avec le type, donc Pedro, l'arrivée avec Gabriel Marceline, la conversation, jusqu'au moment où Pedro est éjecté dans le couloir. Donc c'était les chapitres pour aujourd'hui, si ça marche encore. Donc voilà Pedro à droite.
Alors comme ça vous êtes.
Ah, oh, je me fais d'avis. Je ne suis qu'un pauvre marchand forain. On m'appelle Pedro Surplus.
Marceline.
Je ne crois pas, ta fille.
La petite plaisante.
Mais c'est toi. Vous parlez que devant ton avocat.
Je ne comprends pas un idiot, c'est l'école de monde humide.
Il n'y a plus de respect pour les anciens.
T'es cadre, on dit ça notre pareil. Je préfère m'en aller.
Alors, c'est comme ça que vous vivez de l'exploitation des petites filles.
Moi, monsieur.
Oui, vous, la grande vie. La petite que vous avez tapis au marché.
Ça alors.
Bon. Et quelle est votre profession?
Artiste.
La petite m'a dit que vous étiez le meilleur.
Je ne dis pas toujours la vérité aux enfants. Hein?
Quelle espèce d'artiste?
Danseuse espagnole.
Ah,
ok. Ben non, je vous dis que mon numéro a mis en panne dans une boîte de nuit. Ça veut rien dire. C'est juste pour faire rire le monde. Vous comprenez? Avec ma taille, etc.
Ah! Pourquoi, Martine? Comment tu me trouves? C'est pas chouette?
Oh, mais tu te donnes un clair de
l'espagnol. Oh, non, c'est pas l'idée.
Qu'est-ce que c'est qu'un homosexuel?
C'est un homme qui va te bouger.
Tu me racontes des blagues.
Ah! Peux-tu vite enlever ça?
Y'a pas de raison, ils sont à moi! Fous-le donc à la porte!
Dans la porte, si c'est un flic!
Pendant que c'est un flic, il faut avoir peur! Pendant que c'est un flic, il va là! On dit quoi? On a pas les gens, tu fais quoi? On a pas les gens, tu fais quoi?
Ça consiste, par exemple, à vider les ordures.
Voilà. Donc la version, disons la version proposée par Louis Malle dans le film, réarrange un petit peu, modifie un petit peu ce qui était dans le texte. Je crois que Louis Malle a accentué le problème d'identité de Marceline, qui d'ailleurs s'appelle Albertine. Vous avez entendu Zazie attire sa tante à côté, elle dit, quand elle a mis les pantalons, « Albertine, comment tu me trouves, tante Albertine ?» Alors que dans le texte, c'est Marceline. Alors évidemment, le « Albertine » doit être en rapport avec l'Albertine de Proust. Hein, on ne peut pas avoir d'autres raisons pour s'appeler Albertine après les années 1920-1930 et la publication de la recherche de Proust. Et puis, dans le texte, Zazie insiste elle-même plusieurs fois pour que Gabriel jette Pedro dehors, qu'elle le fasse partir, hein, qu'il le fasse partir, tout simplement. Et dans le texte également, il le met dehors, dans l'escalier. Et Pedro tombe dans l'escalier, et le chapeau après, et Pedro se retrouve dans le café, et non pas au restaurant. Donc il y a là un raccourci, une partie sautée. Donc ça veut dire que dans le film, Louis Malle accentue ou focalise certains problèmes qu'il préfère pour l'image, hein, pour le travail de l'image, et au contraire, il réduit, diminue, saute, hein, fait des ellipses sur d'autres parties. Donc, quand vous regardez le film, il faut bien penser que c'est une autre œuvre que le texte, que le livre. Voilà, on va s'arrêter là pour Zazie. Je le prends tout de suite, comme ça je n'oublie pas. Et alors, pour aujourd'hui, je reviens un petit peu sur la fin de l'histoire de Zazie avec son père et sa mère, et puis ensuite, on passe à la suite. Alors, où est-ce que c'est ? Voilà, à la page 54, c'est-à-dire le début du chapitre 5. Début du chapitre 5. Pour montrer justement un effet, une recherche de Queneau sur la forme de narration, la forme de narration d'une histoire orale, ce qu'on pourrait appeler un art de raconter, un art de raconter avec certains effets comme la répétition progressive ou bien l'hésitation par exemple. Donc je vais lire le début de ce chapitre et vous allez comprendre ce que je veux dire, qui n'est pas normalement le travail d'une petite fille, hein, de 12 ou 13 ans. Le type stue et Zazie reprit son discours en ces termes. Donc ici on a l'ouverture, l'introduction et le type stue. Comment vous comprenez le type stue ? Le type se tue, c'est ça. Donc du verbe se taire, le type c'est Pedro, hein, le type se tue, donc T-U-T, du verbe se taire au passé simple. Mais évidemment, avec une forme comme ça, abrégée, hein, réduite, phonétique, le type se tue, et Zazie reprit son discours en ces termes. Papa, il était donc tout seul à la maison, tout seul qu'il attendait. Il attendait rien de spécial, il attendait tout de même, et il était tout seul, ou plutôt il se croyait tout seul. Attendez, vous allez comprendre. Je rentre donc. Faut dire qu'il était noir comme une vache, papa. Il commence donc à m'embrasser, ce qui était normal puisque c'était mon papa. Mais voilà qu'il se met à me faire des papouilles osées. Alors je dis « Ah non !» parce que je comprenais où c'est qu'il voulait en arriver, le salaud. Mais quand je lui ai dit « Ah non, ça jamais », lui, il saute sur la porte et il la ferme à clé et il met la clé dans sa poche et il roule les yeux en faisant « Ha 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 !» Tout à fait comme au cinéma, c'était du tonnerre. « Tu y passeras à la casserole !» qu'il déclamait. « Tu y passeras à la casserole !» Il bavait même un peu quand il proférait ses immondes menaces. Et finalement, il me bondit dessus. J'ai pas de mal à l'éviter. Comme il était rétamé, il se fout la gueule par terre, il se relève. Il recommence à me courser. Enfin bref, une vraie corrida. Et voilà qui finit par m'attraper. Et les papouilles osaient de recommencer. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvre tout doucement parce qu'il faut vous dire que maman, elle lui avait dit comme ça, je sors, je vais acheter des spaghettis et des côtes de porc. Mais c'était pas vrai. C'était pour le feinter. Elle s'était planquée dans la buanderie où c'est qu'elle avait garé la hache et elle s'était ramenée en douce et naturellement, elle avait avec elle son trousseau de clés. Pas bête la guêpe, hein ? Eh oui, dit le type. Alors donc, elle ouvre la porte en douce et elle entre tout tranquillement. Papa, lui, il pensait à autre chose, le pauvre mec. Il faisait pas attention, quoi. Et c'est comme ça qu'il a eu le crâne fendu. Faut reconnaître, maman, elle avait mis la bonne mesure. C'était pas beau à voir. Dégueulasse, même. De quoi me donner des complexes. Et c'est comme ça qu'elle a été acquittée. J'ai eu beau dire que c'était Georges qui lui avait refilé la hache. Ça n'a rien fait. Ils ont dit que quand on a un mari qui est un salaud de ce calibre, il n'y a qu'une chose à faire, qu'à le bousiller. Je vous ai dit, même qu'on l'a félicité, un comble, vous trouvez pas ? Les gens, dit le type. Geste. Après, elle a râlé contre moi. Elle m'a dit, sacré connarde, qu'est-ce que t'avais besoin de raconter cette histoire de hache ? Ben quoi, je lui ai répondu, c'était pas la vérité ? Sacré connarde, qu'elle a répété, et elle voulait me dérouiller dans la joie générale. Mais Georges l'a calmée, et puis elle était si fière d'avoir été applaudie par des gens qu'elle connaissait pas, qu'elle pouvait plus penser à autre chose, pendant un bout de temps en tout cas. Et après, demanda le type, ben après c'est Georges qui s'est mis à tourner autour de moi. Alors maman a dit comme ça qu'elle pouvait tout de même pas les tuer tous quand même. Ça finirait par avoir l'air drôle. Alors elle l'a foutu à la porte. Elle s'est privée de son Jules à cause de moi. C'est pas bien ça ? C'est pas une bonne mère ? Voilà, je m'arrête ici hein, pour la lecture. Et c'est l'élément principal. Donc je pense que vous avez compris les points essentiels de l'histoire. Le père est saoul, il a bu trop, on a déjà dit qu'il buvait beaucoup, qui s'exprime ici par l'expression « il était noir comme une vache ». Noir comme une vache. Alors, on utilise d'habitude l'expression « être saoul », »,« être bourré ». Bon, en japonais, « yokpalai », j'imagine qu'il y a d'autres façons de dire en japonais, hein, beaucoup d'expressions, bon. Et noir comme une vache, personnellement, je ne l'avais jamais entendu avant Zazie. Je pense que c'est une invention comme ça de langage. Peut-être dans la région de Zazie, les vaches sont noires. Vous savez qu'en France, il y a plusieurs couleurs de vaches. Hein. Il y a des vaches blanches, des vaches noires, des vaches beiges et des vaches avec des taches de différentes couleurs. Bon. Des vaches noires, pourquoi pas. En tout cas, l'expression a une valeur de quantité absolue, de quantité énorme. C'est-à-dire, il était très, très, très saoul, disons, au maximum de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, qui n'a plus aucune limite, qui ne fait plus du tout attention à, justement, la décence, le respect de l'enfant, etc. Et donc, il va s'attaquer à sa propre fille dans une sorte de frénésie ou de besoin sexuel. En même temps, la façon de raconter cette histoire ressemble à ce qu'on appelle le conte populaire. Alors, bien sûr, vous connaissez des contes, comme par exemple « Le petit chaperon rouge ». Qu'est-ce qui se passe dans le petit chaperon rouge ? On en a parlé déjà. Eh bien, il y a un loup qui mange une grand-mère et qui attend dans le lit la petite fille qui vient ensuite. Donc, on peut penser que le but du loup, dès le début, est de manger la petite fille et non pas la grand-mère. La grand-mère n'est qu'un moyen de se trouver dans le lit pour avoir la petite fille qui vient à côté. Mais si le but du loup est seulement de manger la petite fille, il pouvait le faire dès le début. Or, quelle est la différence entre le début et la fin quand la petite fille se couche dans le lit ? Eh bien, c'est justement qu'elle se couche dans le lit. Donc, le fait que le loup veuille manger la petite fille dans le lit correspond bien à quelque chose de différent de simplement manger la petite fille n'importe où dans la rue, devant la maison. Ce qui veut dire que avoir la petite fille dans le lit est le plus important, y compris donc dans le conte, hein, déjà dans le conte populaire. Qu'elle soit dans le lit est l'élément le plus déterminant. Et ensuite, toujours dans le conte, vous avez une progression de identification du loup par le petit chaperon rouge en reconnaissant différentes parties de son corps. Et donc, tu es poilu, c'est pour te tenir chaud, tu as des grandes mains, c'est pour te serrer, tu as des grandes dents, c'est pour mieux te manger. Bon, évidemment, dans une analyse, disons, de type psychanalytique, hein, psychanalyse, on va penser que les grandes dents, hein, avec la notion de grande, correspond plutôt à quelque chose de sexuel, qui va être, disons, caché par l'idée de manger. Mais ça veut dire que le conte populaire et d'autres contes populaires depuis très très longtemps transposent déjà la relation entre un adulte masculin et un enfant féminin avec une sorte de relation sexuelle qui est donc transformée, transposée, masquée, déguisée en autre chose. Et c'est déjà comme ça dans le conte populaire depuis des siècles et des siècles. Alors, on le raconte aux enfants pour leur faire peur, et les enfants ont peur du loup. Enfin, un jour, on leur dit, c'est aussi les messieurs que tu vois dans la rue, c'est un peu comme le loup. Donc, pour les enfants aussi, on finit par avoir une identification entre le loup et des individus réels qui peuvent constituer des menaces, des dangers réels pour les enfants. Donc c'est pas nouveau qu'on dise aux enfants de faire attention, je pense au contraire que c'est très ancien et que c'était beaucoup plus dangereux avant, quand il y avait moins de police, moins de lois, moins de possibilités de découvrir la vérité sur les crimes sexuels et sur les crimes d'enfants. Donc il n'y en a pas plus aujourd'hui, enfin, à mon avis, hein, il faudrait voir des statistiques, même s'ils peuvent être très médiatisés, parfois au-delà des frontières. Hein, donc tel enfant, petit enfant disparu aux États-Unis ou en Angleterre ou en France, on connaît l'histoire jusqu'au Japon, jusqu'en Australie. Bon, c'est le problème de la médiatisation aujourd'hui. Voilà donc l'histoire qui correspond à une sorte de mouvement inverse du conte. Le conte transpose l'histoire vraie du crime sexuel ou du crime d'enfant en version avec animal, avec quelque chose d'imaginaire. Et Raymond Queneau fait le contraire. Il transpose dans un style un peu de conte, mais avec un vrai père, avec une vraie enfant qui se fait agresser. Les termes même de l'agression sexuelle sont indiqués dans le texte par l'expression « papouille zosée ».« Papouille zosée ». Alors bien sûr, ce ne sont pas des mots que vous pouvez trouver facilement dans le dictionnaire. Alors, pour papouille, c'est un mot qu'on utilise souvent pour jouer avec les enfants, ou bien pour décrire des comportements d'animaux. Par exemple, on dit que les singes qui s'enlèvent les puces dans les arbres les uns sur les autres, se font des papouilles. Et ils jouent ensemble, ils se chatouillent, etc. Bon, on peut identifier ça avec des papouilles. De même, les enfants s'amusent avec leurs enfants, les parents s'amusent avec leurs enfants. Par exemple, quand on les emmène dans le bain, les enfants ne veulent pas aller dans le bain, donc il faut faire quelque chose pour amuser les enfants. Eh bien, ça va être pincer, tirer, jouer comme ça, et bien sûr, l'enfant fait la même chose sur son père ou sur sa mère. Voilà donc un mot tout à fait banal, disons, du vocabulaire familial qu'on va utiliser. Mais la différence vient en effet alors de la liaison ici, hein, le S de papouille avec le O de oser est une liaison habituelle, hein, de comme les amis, mes amis, bon, des papouilles osées, et transformée par Queneau en zosé, où vous reconnaissez quand même que on trouve encore deux Z comme dans Zazie. Il y a quand même une proximité un peu étrange, comme si Zazie et zosé étaient des choses très proches, hein, comme si Zazie suscitait, hein, ou provoquait ou était en relation très, très directe avec des papouilles zosées. Alors, on avait vu l'autre jour, au début, que Queneau avait dit lui-même qu'il fallait voir plutôt une proximité historique, disons, hein, avec le style Zazou de l'après-guerre. Et on peut voir donc de l'intérieur du texte, hein, il y a aussi une autre possibilité d'étymologie, c'est-à-dire d'origine du nom de Zazie, comme des formations de Isabelle, par exemple, hein, bon, avec Zosé. Zazie, c'est celle qui reçoit les papouilles Zosé de son papa. Une phrase amusante. En même temps, on voit bien que Zazie se défend, c'est-à-dire qu'elle n'est pas naïve comme le petit chaperon rouge dont je parlais tout à l'heure. Le problème du petit chaperon rouge, c'est qu'elle est naïve et jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où elle identifie le loup, eh bien, elle n'a pas peur, elle ne se doute de rien. Alors, si on veut que les enfants puissent se défendre, eh bien, il faut essayer de leur enlever une partie de leur naïveté, c'est-à-dire de les avertir, de les prévenir. Il semble donc que Zazie était une petite fille déjà bien prévenue, qui avait la possibilité de prévoir, hein, de comprendre ce que son père avait l'intention de faire. On a déjà vu tout à l'heure avec Pedro, et puis avant avec Turando, la capacité de Zazie, qu'on peut appeler capacité d'anticipation. Anticiper, hein, c'est-à-dire savoir avant que quelque chose arrive. Anticiper le danger, c'est le travail de toutes les personnes qui s'occupent de la sécurité. Hein, il faut connaître les dangers pour les anticiper, pour les éviter. Mais évidemment, pour une petite fille, c'est un peu étrange qu'elle puisse anticiper comme ça. Alors, elle raconte bien sûr l'arrivée de sa mère, et le plus intéressant dans cette histoire, je crois, c'est qu'on découvre que la mère avait préparé son retour. Non seulement son retour, mais également la hache pour tuer son mari. Si elle avait peut-être un doute, une crainte, elle aurait pu préparer son retour, mais sans savoir ce qui se passe, elle n'a pas besoin d'une arme. Hein, donc il y a dans ce crime du mari un élément très important du domaine du vocabulaire criminel qu'on appelle la préméditation. Un crime avec préméditation, c'est beaucoup plus grave que un crime passionnel, un crime soudain, un crime de défense ou d'autodéfense également. Donc ici, préméditation. Et c'est la raison précisément pour laquelle la maman de Zazie n'est pas contente, parce que Zazie, au procès, a dit que la hache était déjà prête, donnée par Georges, l'amant. Alors bien sûr, au moment du procès, c'était un moyen de découvrir la préméditation, ce qui peut-être rendait la mère véritablement criminelle, volontairement criminelle. Comme si laisser Zazie avec son père, quand il était sous, était aussi prémédité. Donc, comme si la mère avait souhaité, déjà avant, tuer son mari, ou se débarrasser de son mari, et qu'elle aurait utilisé son enfant pour créer une situation où elle pouvait intervenir. C'est jusque-là, cette préméditation dévoilée par Zazie. Mais, comme vous avez lu, au procès, on a dit, ben non, quand le mari est aussi monstrueux, il n'y a qu'une chose à faire, avec des mots abrégés, hein, c'est au milieu de la page 55, quand on a un mari qui est un salaud de ce calibre, c'est-à-dire ce calibre, c'est la taille, hein, on utilise pour des armes des pistolets, petit calibre, c'est un petit pistolet, et puis gros calibre, c'est un gros pistolet, c'est le calibre d'une arme. Dans le vocabulaire des criminels, l'argot des criminels, on utilise d'ailleurs le mot calibre pour dire une arme. En anglais, ça serait gun, par exemple. En français, on va dire un calibre. Alors, je crois que les DVD du film Mesrine sont arrivés. Le film sort ou est déjà sorti au Japon il y a quelques mois. Mesrine, c'est Jacques Mesrine, c'était un célèbre criminel français. Et l'année dernière, un film en deux parties a été fait. Qui a un certain succès. Bon, les DVD sont là maintenant, en édition japonaise. Vous verrez qu'il est souvent question d'armes et on peut parler de calibre. C'est tout à fait normal. Passe-moi ton calibre, donne-moi ton calibre, quel est ton calibre, etc. dans le vocabulaire. Non. Et là, il n'est pas question d'armes, mais c'est la taille. C'est plutôt la notion de size. La grandeur, la quantité de salauds. Il n'y a qu'une chose à faire qu'à le bousiller. Le bousiller, c'est le bousiller. Bousiller est un verbe qui veut dire le tuer, le détruire. Peut-être dans le dictionnaire... Oui, il doit être dans le dictionnaire le mot bousiller. Bon, ça dépend des dictionnaires qu'on utilise. Voilà, donc c'était la narration de son histoire, disons de son traumatisme d'enfance, avec le meurtre de son père par sa mère. Il y a actuellement en France une jeune femme écrivain qui a commencé sa carrière il y a une dizaine d'années à peu près, et qui est assez connue dans la littérature française contemporaine, et dont plusieurs livres racontent le crime réel qui est à l'origine de son traumatisme et peut-être de sa carrière de jeune femme écrivain. Elle s'appelle Chloé Delhomme. Vous trouverez plusieurs de ses livres ici à la médiathèque. Et c'est une jeune femme qui a écrit donc plusieurs livres très intéressants et qui a tenté aussi plusieurs fois de se suicider, mais qui jusqu'à maintenant n'a pas encore réussi. Et puis je crois qu'avec le succès littéraire, un peu l'âge aussi, elle est un petit peu plus stable et puis elle aime un petit peu mieux la vie. Mais lorsqu'elle était petite enfant, à peu près à l'âge de Zazie d'ailleurs, son père a tué sa mère, donc c'est pas dans le même sens, hein. Son père a tué sa mère devant elle, dans la cuisine, d'un coup de fusil. Et la petite fille a donc assisté à cette scène, vu le sang couler, etc. Et donc très très traumatisée. Alors bon, vous pouvez essayer de lire un ou deux de ses livres. Je ne sais pas s'il y en a traduit en japonais. J'ai pas vérifié. Donc bon, vous verrez déjà en français. Et ça veut dire aussi que la relation entre crime familial, traumatisme du crime familial et carrière littéraire est possible. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles des personnes commencent à écrire ou à s'exprimer d'une façon artistique pour faire sortir des choses qu'ils ne peuvent pas dire normalement avec leurs amis ou leurs voisins dans la vie de tous les jours. L'art comme une sorte de défoulement ou de thérapie de ce genre. Bon, je ferme cette parenthèse et on peut passer à la suite. La suite du chapitre 5 est moins compliquée. Après que Zazie a raconté son histoire, ils partent du restaurant. Elle essaye de s'enfuir, mais ça ne marche pas. Le type la rattrape et la ramène chez elle. Il lui demande son adresse et il la ramène. Ce qui fait que, en bas de la page 58, il y a une sorte de renversement de la pensée de Zazie. Hein, Zazie avait pensé que c'était un satyre qui essayait de l'attirer en ayant un peu l'apparence d'un flic, mais c'est tout le contraire. Donc en bas de la page 58, Zazie ne fut pas longue à tirer des conclusions de cette remarque. C'était pas un satyre qui se donnait l'apparence d'un faux flic, mais un vrai flic qui se donnait l'apparence d'un faux satyre qui se donne l'apparence d'un vrai flic. Donc on a une sorte de multiplicité du masque, hein, c'est-à-dire vous mettez un masque de flic et c'est pour jouer le satyre, parce que vous êtes un satyre en fait, donc vous mettez un masque de flic. Mais en fait, c'est un masque de satyre qui cache un flic. Et ce flic joue au satyre. Alors on ne sait plus très bien où on en est, hein, mais bon, Zazie en arrive à penser cela parce que il la ramène chez elle. Hein, donc il n'est pas en train d'essayer de attirer l'enfant dans un piège, mais au contraire de la ramener à la maison. Alors bon, tout le monde est content de la voir revenir, mais le type commence à poser des questions, en effet, comme s'il était flic, pour vérifier qui est Gabriel, ce qu'il fait, son identité, est-ce que c'est bien le papa, non c'est pas le papa, c'est le tonton, est-ce que tout ça est bien honnête. On retrouve ici un questionnement qui était dès le début dans la bouche de Turandot, hein, le propriétaire, qui est la relation entre le tonton et la nièce est-elle une vraie relation de famille ? Est-elle suffisante pour éviter les problèmes avec le voisinage ? Alors, toujours dans ce chapitre 5, en haut de la page 60, le type, entre guillemets, se nomme lui-même. Il dit pas exactement « je m'appelle », mais en haut de la page 60, il dit « je suis connu sous le nom de Pedro Surplus ». C'est très clair comme expression, hein. Ça veut dire « ce n'est pas mon nom, mais je suis connu sous le nom de ». Hein, la notion de « sous le nom de » indique bien que ce n'est pas son nom véritable. Donc, c'est ce qu'on appelle un « nom d'emprunt ». Et de la même façon qu'on peut utiliser un masque pour avoir une apparence différente de sa réalité, on peut utiliser un nom d'emprunt pour se faire passer, pour prétendre être quelqu'un d'autre. Alors on verra progressivement que ces jeux sur le nom, en particulier de ce personnage, mais d'une façon plus générale, le jeu sur le nom et le jeu sur le masque et sur le costume correspondent à la même chose qui est un questionnement, disons, de Raymond Queneau sur le problème de l'identité. Pourquoi des gens, n'importe qui peut-être, a besoin à certains moments de jouer avec son identité, de changer son identité, de déformer son identité. Et cela dans presque toutes les sociétés humaines. Par exemple, sous la forme du carnaval. Alors le carnaval est peut-être plus connu dans les pays européens, avec des transformations comme ça qui arrivent maintenant, par exemple au Brésil, jusqu'au Carnaval de Rio, qui est une fête internationale très connue, mais où on connaît bien aussi qu'il y a du danger. Dans tout carnaval, il y a du danger. Le carnaval, c'est une sorte de défoulement. Après avoir travaillé très très durement, très très sérieusement, on a besoin de se défouler et de s'amuser. Et pour cela, on met des costumes, on met des masques, on repousse son identité véritable quelque part et on joue à être quelqu'un d'autre. Côté carnaval. De l'autre côté, on a le théâtre. Le théâtre, dans tous les pays aussi, existe et il correspond à un besoin de l'être humain, de jouer avec des identités autres. Et en particulier au Japon, le masque de No est un choix, disons, assez mystérieux, de transposition ou de façon de cacher ou d'effacer l'identité. Alors je ne suis pas spécialiste du No et de la notion du masque de No, mais je comprends bien qu'il y a un problème autour de ça dans toutes les sociétés humaines. Alors, on va appeler cette tendance à modifier son identité pour se défouler, pour se relâcher de tensions de la vie humaine normale, on va appeler ça la tendance ou le jeu, les activités carnavalesques. Carnaval, on forme l'adjectif carnavalesque qui veut dire à la manière du carnaval, à la façon du carnaval. Et donc dans activité carnavalesque, on peut mettre à la fois le théâtre, les jeux avec les enfants, les changements d'identité et aujourd'hui, avec les jeux vidéo et l'internet, les changements d'identité, ce qu'on appelle les avatars, vous connaissez le mot avatar, qui existe depuis longtemps, bien avant le film qui est sorti. Mais ce film qui est sorti, Avatar, je ne sais pas qui l'a vu parmi vous. Moi, je l'ai vu très récemment, la semaine dernière, et on peut critiquer le film, mais il y a quand même des points intéressants. Et bien sûr, on retrouve une tendance, une sorte de nécessité humaine de se transformer, transposer dans d'autres identités. Alors là, dans le film, ça n'est que ça, évidemment, pour rechercher une autre dimension humaine. Alors, dans Zazie dans le métro, les activités carnavalesques sont nombreuses. Du côté de personnages, plutôt des personnages masculins, donc Pedro Surplus ou Gabriel, hein, qui se transforme en danseuse espagnole, et un peu moins du côté féminin. Par exemple, Mado, c'est Mado. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de changement. En revanche, Marceline, hein, c'est un peu ambigu. Mais on découvrira en effet que Marceline, c'est peut-être Marcel. Et là, donc, on retrouve l'ambiguïté chez Proust de Albertine Albert. Alors pour celles et ceux qui connaissent un peu Proust ou qui envisagent de le lire, eh bien vous rencontrerez assez tôt dans le récit proustien, dans Les jeunes filles en fleurs, une jeune fille qui s'appelle Albertine, et dans la description en effet avec des traits un peu pas très féminins, pas très kawaii, comme on pourrait dire, et une ambiguïté sexuelle qui restera très très longtemps dans le texte, jusqu'à d'ailleurs ce que Albertine disparaisse, hein, puisque un livre de Proust s'appelle Albertine disparue, où le personnage a disparu. Il a disparu, il a changé de sexe, c'est pas très bien, hein, où Albertine a disparu. Mais évidemment, Proust est publié chez Gallimard dans les années 1920-1930, 1920 principalement, 1930 c'est la continuation, et Raymond Queneau connaît très bien la maison, les œuvres de Proust, évidemment. Et donc ce problème de l'identité sexuelle. Alors cette question de l'identité sexuelle va être au centre de la discussion entre Pedro et Gabriel. Pour le chapitre, la fin du chapitre 5 et le début du chapitre 6, Zazie va sortir de la pièce avec Marceline pour aller essayer son pantalon, c'est très important pour elle. Et donc Pedro reste avec Gabriel et ils vont discuter ensemble. Donc, on ne peut pas dire discuter, hein, vraiment. C'est Pedro qui pose des questions à Gabriel. Page 61. Justement, dès que Zazie sort de la pièce, hein, à peu près au milieu de la page. Et ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la séquence du film de Louis Malle. Alors, dit le type, c'est comme ça que vous vivez de la prostitution des petites filles ? C'est choquant, hein, comme question. Hein. Gabriel fait semblant de se dresser pour un geste de théâtrale protestation. Hein, vous voyez les éléments de carnaval, hein, de transfiguration, de théâtre. Il fait semblant de se dresser. Donc il ne se dresse pas, il fait semblant de... Il joue à. Et donc une théâtrale protestation, donc sans doute un peu exagérée, mais se ratatine aussitôt. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à jouer ce rôle. Il pense, peut-être, je vais jouer ce rôle, et ça ne marche pas. Il échoue. « Moi, monsieur ?» murmure-t-il. « Oui, réplique le type. Oui, vous n'allez pas me soutenir le contraire. »« Si, monsieur. Vous en avez du culot ?» Flagrant délit, cette petite faisait le tapin au marché Opus. J'espère au moins que vous la vendez pas aux Arabes. Ça jamais, monsieur. Ni aux Polonais. Non plus, monsieur. Seulement aux Français et aux touristes fortunés. Seulement rien du tout. La grenadine commence à faire son effet. Gabriel récupérait. Je m'arrête là pour l'instant. Il y a plusieurs choses importantes. D'abord, l'accusation d'utiliser une petite fille comme prostituée, c'est-à-dire d'être précisément ce que la loi appelle un proxénète, et donc un délit, un crime de proxénétisme. est de obliger quelqu'un à se prostituer et bien sûr dans le but de récupérer l'argent. L'obligation étant liée pour la personne prostituée à la fois à une dépendance qui peut être amoureuse, mais pas toujours, et à une protection. La prostituée, en effet, là où le prostitué, hein, d'ailleurs, est en danger, parce que, justement, il offre un service sexuel qui peut toujours créer des situations de danger. Donc, il ou elle a besoin d'une protection. Le proxénète prétend protéger cette personne. Et l'argent qu'il récupère de la prostitution, c'est le prix de cette protection. Bon, le système des Yakuza, je crois, n'est pas très différent. Hein, on propose à des commerçants de les protéger moyennant un certain prix, un certain tarif de cette protection. Et si les commerçants ne sont pas d'accord, on va en effet créer un danger, créer un accident, créer un crime, et dire ensuite que, ben voyez, vous avez besoin de protection. Donc les proxénètes peuvent agir de la même façon avec les prostituées. Dans cette relation entre prostituée et proxénète, il est obligé que la prostituée ou le prostitué soit plus faible que le proxénète. Donc le proxénète ou la proxénète, ça peut arriver aussi, c'est quelqu'un qui va dominer physiquement et moralement. Aujourd'hui, on parle en Europe, par exemple, de réseau de filles de l'Est. Vous avez peut-être vu ça dans la presse ou à la télé. Ce sont des filles qui viennent de pays de l'Est de l'Europe, donc Roumanie ou quelque part par là, auxquelles on a promis de travailler dans un bar ou dans quelque chose de normal, légal, décent, et qui sont totalement affaiblies d'être arrivées dans un pays, en France, où elles parlent très très mal la langue, où elles ne connaissent rien, et donc entièrement dépendantes. Donc que ce soit avec sa propre épouse, hein, puisque c'est un cas très courant aussi, le mari prostitue sa femme pour gagner de l'argent, très classique, on a des films français des années 30 avec Jean Gabin par exemple, hein, bon. Ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux de prostitution, ce sont des organisations criminelles très développées, ça repose toujours sur la même situation, hein, la faiblesse de l'un par rapport à la domination de l'autre, la proposition d'une protection dans l'utilisation de prostitution, de services sexuels qui rapportent beaucoup d'argent. Il faut le dire aussi, ça ne marche que parce qu'il y a des clients, que ce soit des hommes ou des femmes, encore une fois, des deux côtés, c'est possible. Donc, un flic pourrait être déguisé en satyre pour arrêter une petite fille qui serait une prostituée. Et de cette façon, il remonte au proxénète. Ce serait une sorte de bonne enquête policière, hein, pour retrouver l'origine du réseau, donc expliqué ici. Alors la prostitution s'exprime aussi avec l'expression « faire le tapin ». Vous avez peut-être trouvé dans le dictionnaire aussi, Pedro Surplus dit « Cette petite faisait le tapin au marché aux puces ». Faire le tapin, ou le verbe « tapiner », ça veut dire attirer des clients, proposer des services sexuels. L'autre élément important de ce petit dialogue, c'est l'élément de racisme. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un écrivain comme Raymond Queneau pourrait facilement écrire ce genre de dialogue sans avoir des problèmes avec des représentants de la population, entre guillemets, arabe, ou des représentants de la population polonaise, par exemple. Cependant, Raymond Queneau a choisi d'indiquer deux groupes de population qui sont en effet deux groupes de population immigrés en France dans les années 50, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire dans le moment où la France se reconstruit, commence à se reconstruire, et on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre étrangère. C'est en effet la période où on va commencer à accueillir en France beaucoup de Nord-Africains, mais également des Polonais, des Yougoslaves, des Espagnols, des Portugais, etc., pour la reconstruction de la France. Le problème de l'immigration n'est pas tellement important à cette époque. Il deviendra plus important 15 ans, 20 ans après, dans les années 70, quand cette importante population immigrée commencera à avoir moins de travail à cause de la crise, d'un côté, et en même temps plus de familles, c'est-à-dire les femmes et puis des enfants qui se sont installés avec eux. Et là, on commence à avoir un autre problème social encore très présent en France aujourd'hui, qu'on appelle l'immigration, mais je ne sais pas, c'est pas notre sujet, ni aujourd'hui, ni dans le livre. Donc, j'espère au moins que vous ne la vendez pas aux Arabes, montre bien qu'il y a une forme de, peut-être pas de racisme, mais de xénophobie, parce que arabe ou polonais, c'est pareil, on n'en veut pas. Donc c'est un refus des étrangers. C'est ce qu'on appelle la xénophobie. Alors xénophobie construit avec phobie, phobia en grec, qui est la peur, et xéno, l'étranger, l'extérieur. Pedro Surplus énumère donc plusieurs populations. D'abord les Arabes, peut-être le plus évident, dans une sorte de racisme cliché, stéréotypé. Ensuite les Polonais, et puis en troisième, des Français ou des touristes fortunés. Alors là, c'est assez intéressant parce que ça vient en troisième, donc comme si c'était quelque chose de plus rare, finalement. Il a dit non une fois, il a dit non deux fois, donc on cherche des cas plus rares et on trouve des gens fortunés. Alors là, ça touche à un autre sujet qui serait, disons, l'utilisation de la prostitution par des gens riches, et c'est-à-dire des gens riches qui ont moins de raisons de s'inquiéter de la police. Voilà, pour l'exprimer d'une façon assez neutre, les gens riches ont une sensation d'impunité. Impunité, ça veut dire qu'on ne pourra pas les punir pour leurs crimes, parce qu'ils sont très riches. Ils sont très riches, ils connaissent des gens, ils connaissent des ministres, ils connaissent des hommes politiques. S'ils ont un problème, ils ont juste un coup de téléphone à passer et ça va se régler très vite. Donc, c'est ce sentiment des gens riches qu'on appelle l'impunité. L'impunité, donc, a un sens un peu négatif de cette façon, mais c'est un mot qui a aussi un sens positif, puisque à propos des diplomates, par exemple, on dit que les diplomates ont le droit de passer les frontières sans montrer leur bagage pour le respect des conventions diplomatiques internationales. C'est précisément ce qu'on appelle l'impunité diplomatique. Et on sait que certains diplomates malhonnêtes utilisent cette impunité pour des trafics, en particulier entre des pays pauvres et des pays riches, évidemment, c'est beaucoup plus logique. La réponse de Gabriel est la même aux trois questions, c'est non. C'est-à-dire que Zazie n'est pas une petite fille prostituée dans la rue, et évidemment, Pedro n'est pas convaincu. Donc, à la page 62, on continue, et troisième ligne, le type sourit diaboliquement comme au cinéma. C'est intéressant que « comme au cinéma » soit présent ici, parce que Zazie n'est pas là pour le voir. D'habitude, on pense que c'est Zazie qui voit comme au cinéma. Donc, comme au cinéma, ça veut dire aussi que Queneau, hein, Raymond Queneau, s'intéresse beaucoup au cinéma et il est très impressionné par les images, les attitudes des acteurs hein, qui jouent diaboliquement. Alors, c'est peut-être aussi un souvenir du cinéma qu'on appelle en français le cinéma muet, c'est-à-dire avant le son. Avant d'avoir le son, avant d'avoir le cinéma parlant, il y avait le cinéma sans son, avec que des images. Pour exprimer des sentiments, dans le cinéma muet, les acteurs devaient exagérer le jeu, et en particulier dans les positions et les jeux et les postures diaboliques, il fallait exagérer l'attitude diabolique. Alors, on avait bien sûr le maquillage, le costume, la lumière, hein, très important d'éclairer par en dessous, hein, par exemple, et ensuite l'attitude de l'acteur qui va prendre un visage le plus terrible possible. Avec ce qu'on appelle le parlant, hein, c'est-à-dire le cinéma parlant, on va aller vers plus de réalisme. Donc, dans un film comme « Les Diaboliques », de Clouseau, par exemple, eh bien, les personnages diaboliques ressemblent à vous et à moi. Ce qui est beaucoup plus dangereux, finalement, que lorsque le personnage diabolique a vraiment une attitude, une apparence diabolique. On en arrive à la demande de profession et d'identité. Je vous répète que je n'ai pas d'activité délictueuse, pas d'histoire. Profession, hein, c'est comme l'interrogatoire du policier. Artiste. Vous, un artiste? La petite m'a dit que vous étiez veilleur de nuit. Elle y connaît rien. Et puis on ne dit pas toujours la vérité aux enfants, pas vrai? Bon, jusque-là c'est normal. Hein. À moi, on l'a dit. Mais vous n'êtes pas un enfant. Bon, c'est un peu inversé le problème. Une grenadine. Alors, à propos de la grenadine, on y reviendra un petit peu plus tard. On a déjà vu il y a deux semaines, quand Gabriel a tapé sur la table, la grenadine s'est renversée. Pourquoi Gabriel boit toujours de la grenadine? On ne sait pas. Hein. Il ne boit pas d'alcool, il ne boit pas de l'eau, ou pas beaucoup d'eau, mais surtout du sirop de grenadine. Bon, je crois que c'est un jeu de Raymond Queneau, une sorte d'exagération, pour aussi rendre typique le personnage, hein, typiser le personnage avec un élément comme ça. Et puis, la grenadine, c'est rouge, ou bien c'est très sucré, alors je ne sais pas quelle pourrait être la valeur de cela. Dans une forme parodique, de façon parodique, on propose toujours à boire de l'alcool. Hein, et là, la parodie prend un sens un peu ridicule, on propose de la grenadine, comme si c'était une boisson entre hommes. On arrive à la question « Quelle espèce d'artiste ?» et Gabriel répond modestement, en baissant les yeux, « Danseuse de charme ». Alors, comme on l'a vu au chapitre précédent, les derniers mots d'un chapitre constitue souvent ce qu'on appelle une chute. Une chute d'histoire, c'est lorsqu'on a maintenu une certaine tension, un certain suspense, et d'un seul coup, on révèle une information qui a bien sûr un effet comique et qui a un effet de relâchement, de libération de la tension accumulée par le suspense. dans le théâtre classique, on appelle ce relâchement, cette détente liée à la chute, on l'appelle la catharsis. Et bon, ben, les spécialistes du théâtre disent que la catharsis est en effet l'effet recherché par le théâtre, tragique en particulier, lorsqu'on a un besoin de vivre dans le théâtre, dans la pièce de théâtre, quelque chose que l'on n'aimerait pas vivre dans la réalité. On ne souhaite pas dans sa propre vie qu'il y ait des crimes, qu'il y ait des aventures extravagantes, et on va au théâtre pour vivre cette sensation et en quelque sorte se débarrasser des sentiments que l'on a accumulés dans sa vie de tous les jours. La catharsis joue ce rôle. Le chapitre 6 et le chapitre 7 peuvent être pris ensemble, disons, et je vais vous les résumer rapidement pour qu'on voit un peu ce qui se passe dans ces chapitres. Dans le chapitre 6, Zazie met son pantalon, elle est donc dans la pièce à côté, et Marceline écoute à la porte en surveillant Zazie. Zazie demande à Marceline si elle entend, et Marceline dit que non. Mais c'est faux, elle entend très bien. Mais ce qu'elle entend ne peut pas être dit à une petite fille. Ce sont des sujets sur l'homosexualité en particulier. Zazie découvre, en écoutant à la porte à son tour, qu'on entend très bien. Donc elle est un petit peu pas contente contre Marceline qui lui a menti. Et surtout, elle entend un mot. Elle entend un mot et elle entend homosexuel. Donc elle demande tout de suite à Marceline ce que ça veut dire et Marceline lui répond comme on répond aux enfants, mais d'une façon extrêmement drôle. Elle dit c'est un homme qui met des blue jeans. Bon, il faudra voir qu'est-ce que ça veut dire que mettre des blue jeans dans les années 1950. Ça ne doit pas être la même chose qu'aujourd'hui, évidemment. Zazie va entrer dans la pièce et dans la conversation et elle pousse Gabriel, elle demande à Gabriel de chasser Pedro, de le faire partir. Ce qui était d'ailleurs une demande de Marceline. C'est Marceline qui a dit il faudrait que Gabriel le fasse partir. C'est Zazie qui le demande. Pedro devient de plus en plus menaçant et il adresse ses menaces vers Marceline. Comme on a vu tout à l'heure dans le film, on a l'impression que Pedro s'intéresse à Marceline dans le film comme s'il était un peu amoureux d'elle, une sorte de coup de foudre. Dans le texte de Raymond Queneau, il n'y a pas du tout de relation d'attirance entre Marceline et Pedro, mais simplement la question que fait Madame. Et la réponse de Gabriel, qui reprend un peu, disons, son rôle de mari, c'est-à-dire son rôle de protecteur, cette fois protecteur dans le bon sens, pas dans le sens du proxénète, protecteur, et il retrouve de l'énergie grâce à la grenadine, on a dit aussi dans le texte, et il va jeter Pedro dehors. Donc un rôle classique pour un homme qui intervient lorsque sa femme est menacée. On retrouve Pedro au café, rapidement, il s'assoit, et puis Gabriel arrive à son tour au café, mais il ne voit pas que Pedro est là. Il commence à discuter avec Pedro. Et lorsque Gabriel voit que Pedro est là, il s'évanouit. Cet évanouissement de Gabriel n'est pas très facile à comprendre pour nous, hein, puisqu'on pense que Gabriel est grand et fort, pourquoi il s'évanouit ? Eh bien, déjà dans le chapitre 5, nous avons remarqué que Gabriel se sentait très mal à l'aise devant ce Pedro, qui est présenté comme un flic. Si c'est un policier, pourquoi Gabriel peut le craindre ? Si ce n'est à cause de son identité sexuelle en particulier. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment parler de identité sexuelle. Identité sexuelle, c'est masculin ou féminin. Aujourd'hui, il y a une problématique plus large avec ce qu'on appelle des transsexuels. La possibilité aux États-Unis, par exemple, d'un questionnement ou d'une identité qu'on appelle queer aujourd'hui. Q-U-2-E-R. Queer. Cette problématique existe un peu au Japon, où il y a aussi des transsexuels, que ce soit des artistes ou pas des artistes, mais il y a aussi des opérations chirurgicales maintenant pour passer d'un sexe à l'autre. De façon générale, il s'agit toujours d'être masculin ou féminin. Il est très rare que l'on trouve des revendications d'une troisième identité, que ce soit hermaphrodite ou asexué, par exemple. Donc les deux sexes ou aucun. Dans les années 1950, cette problématique n'est pas du tout aussi développée qu'aujourd'hui, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Japon. Mais le problème de l'homosexualité est déjà très présent, y compris dans la littérature, dans le cinéma ou dans d'autres arts, comme la danse, par exemple. Alors, le problème est vraiment révélé lorsque Zazie entend le mot « homosexuel » et qu'elle demande ce que ça veut dire. Alors, c'est à la page 65. Le problème devient en quelque sorte familial, hein, puisqu'il faut expliquer quelque chose à Zazie et que Zazie va progressivement, tout au long du livre, découvrir plus ou moins ce que c'est peut-être que l'homosexualité. Pour autant, ça a commencé déjà un petit peu avant, hein, tout au début du chapitre 6, à la page 63, donc, quand Marceline entend bien ce que dit Pedro. Il dit « Alors, c'est pour ça, parce que vous êtes une pédale, que la mère vous a confié cet enfant. » D'ailleurs, il l'a répété, hein, il l'avait déjà dit avant, il le répète. Et Gabriel répondait « Mais puisque je vous dis que j'en suis pas, d'accord, je fais mon numéro habillé en femme, dans une boîte de tente, mais ça veut rien dire. C'est juste pour faire marrer le monde. Vous comprenez, à cause de ma haute taille, ils se fendent la pipe, mais moi, personnellement, j'en suis pas. La preuve, c'est que je suis marié. » On a là ce qu'on peut appeler une défense, hein, puisque Gabriel est accusé, donc il se défend. Et dans sa défense, il essaye d'abord d'expliquer la nuance. Premier élément important, la nuance. Qu'est-ce que c'est la nuance ? C'est moi-même, je ne suis pas homosexuel, mais je travaille dans un club, dans une boîte, hein, une boîte c'est un club, night club, dans un club d'homosexuels. Et dans ce club d'homosexuels, mon travail de danseuse avec ma grande taille en robe est très drôle, très comique. Et c'est ça qui me permet de gagner de l'argent. Donc c'est un travail. Ce travail, on a pensé d'abord à la fin du chapitre 5 que c'était danseuse de charme, et on découvre maintenant que c'est un travail de comédien. Il y a quand même une autre différence entre une danseuse et un comédien, une danseuse ou un danseur. Une danseuse ou un danseur joue un rôle? Non, il utilise son corps pour danser, et bien sûr, parfois il a un costume. Mais lorsqu'on pense à un danseur ou à une danseuse, on a l'impression que la personne ne joue pas un rôle comme un comédien de théâtre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, lorsque quelqu'un danse, par exemple, des ballets classiques, hein, il ne s'agit pas d'un rôle de comédien. Lorsqu'un acteur joue un rôle, c'est quelque chose de différent. Mais la nuance, hein, la frontière entre les deux est très difficile à trouver, puisque le danseur utilise quand même un costume oriental, un costume animal, un costume de différentes natures, d'hommes ou de femmes. La limite est très difficile à trouver. Cette limite, elle se trouve là, vous voyez, dans le passage entre le chapitre 5 et le chapitre 6. Hein, il y a une limite, c'est la limite entre danseuse et comédien. Comédien, d'ailleurs, comique, grotesque. C'est le ressort comique qu'on appelle le grotesque, c'est-à-dire de jouer avec son apparence énorme, jouer à une danseuse, c'est-à-dire qui doit jouer sur la finesse, la beauté, la séduction. Donc c'est un peu comme on pourrait représenter dans une bande dessinée, par exemple, un hippopotame qui essaye de danser avec un tutu. Un tutu, c'est la petite jupe de danseuse. Bon ben, si on dessine comme ça un hippopotame ou un éléphant, hein, en tutu, on a exactement l'image de Gabriel, hein, cet aspect grotesque dans la boîte de nuit. Et donc, Gabriel dit, c'est mon travail, c'est mon rôle, mais moi, personnellement, je ne suis pas homosexuel. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Un comédien joue là où il trouve du travail. Et s'il a trouvé ce travail-là, eh bien, pourquoi pas? D'ailleurs, dans ce club, si les clients de ce club savent que cette danseuse, entre guillemets, n'est pas homosexuelle, pour eux, c'est encore plus amusant. Hein, je ne sais pas si vous pouvez vous mettre à la place d'homosexuels qui sont dans un club d'homosexuels et qui voient danser une personne hétérosexuelle déguisée en femme, je crois que pour eux c'est plus amusant encore. Il y a une sorte de renversement, hein, du monde et des identités qui est plus amusant pour des homosexuels. Bon, je n'insiste pas sur cet aspect, là encore, carnavalesque, hein, de transformation et de inversion des valeurs. Donc, pour ce qui est du vocabulaire, on a trouvé les mots pédale et tente. Les mots pédale et tente sont tous les deux utilisés couramment, encore aujourd'hui, pour parler des homosexuels, comme ils pouvaient l'être déjà à l'époque de Proust ou de Gide, puisque Gide, André Gide, est également un des écrivains de la maison Gallimard, qui a lui aussi laissé voir son homosexualité dans sa production littéraire, même si ça n'est pas à la façon, disons, plus actuelle, hein, de ce qu'on appelle coming out, qui est le fait de révéler publiquement son homosexualité. Alors, à propos de cette histoire de l'homosexualité, j'ai essayé de retrouver quelques informations. Donc, des écrivains français très courageux comme Gide ou Proust, courageux entre guillemets, hein, je ne sais pas quelle dimension du courage cela représente, mais ils ont laissé comprendre, hein, ils ont bien fait comprendre qu'ils étaient homosexuels ou bisexuels, hein, puisque Gide écrit un livre où un personnage marié montre son homosexualité. Donc il y a, comme avec Gabriel et Marceline, ce qu'on appelle une couverture. Qu'est-ce qu'on appelle une couverture ? C'est le fait d'avoir une apparence sociale normale, c'est-à-dire d'hommes et de femmes mariés ensemble, et d'avoir en privé ou dans un cercle restreint de connaissances des pratiques, des habitudes sexuelles qui peuvent être tout à fait différentes. Alors jusqu'à maintenant, j'ai utilisé les mots identité sexuelle, pratique sexuelle, habitude sexuelle. Ces trois mots ne sont pas corrects. Aujourd'hui, on utilise un quatrième mot qui sert bien à la définition de tous ces mots en même temps, que l'on appelle orientation sexuelle. Et presque officiellement, disons, on parle de l'orientation sexuelle. En effet, l'identité sexuelle, elle peut se constater, c'est masculin ou féminin, c'est assez simple, avec une petite marge, disons, de problèmes. Les pratiques sexuelles sont des actes, des activités. On ne peut pas toujours les connaître, ni très bien les qualifier. Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Les habitudes sexuelles, ça peut être quelque chose qu'on n'aime pas. On peut être contrarié. Et donc, l'orientation, c'est le mot qui correspond le mieux maintenant, parce qu'il correspond à, en quelque sorte, à la fois la volonté, le choix, la nature d'une personne dans son activité et sa vie sexuelle au sens général. On voit donc des hommes et des femmes qui ont commencé normalement, entre guillemets, leur vie sexuelle, c'est-à-dire dans la norme, lorsqu'on est un homme en tant qu'homme hétérosexuel, pour les femmes pareil, et des gens qui ont découvert par la suite que, en fait, ils préféraient le même sexe qu'eux, ou bien les deux. Donc voilà, on appelle ça orientation sexuelle. Pour ce qui est de l'homosexualité masculine ou féminine, vous savez sans doute qu'elle existe depuis très très longtemps, que les Grecs, la civilisation grecque, avait donné une très haute valeur à l'homosexualité masculine, et le mariage était une sorte de pure convention qui permettait d'avoir des enfants, hein, c'est-à-dire de continuer la société, la lignée, la famille. Et d'autres sociétés ont pu valoriser aussi l'homosexualité. En revanche, et à cause des religions, principalement des religions monothéistes, c'est-à-dire avec un seul Dieu, hein, donc les chrétiens, les musulmans, les juifs, ont rejeté l'homosexualité et ont déclaré l'homosexualité quelque chose de tout à fait pervers, criminel, etc. Ce qui a donc repoussé tous les homosexuels à des zones cachées de la société. Le fait de se cacher, de pratiquer en secret, de la même façon d'ailleurs pour des religions qui ont été interdites, hein, par exemple les protestants ou les juifs, le fait de pratiquer en secret crée un fantasme dans la société. Tous les gens qui sont « normaux », entre guillemets, c'est-à-dire qui sont dans la norme, normalité, ont une idée un peu extravagante, fantasmatique de ceux qui font des choses interdites dans la sexualité, dans la religion ou dans d'autres choses. Par exemple, les sectes, les sociétés secrètes, les templiers, etc., etc. Hein, toujours des fantasmes comme ça. Et l'homosexualité crée donc des fantasmes. Pour éviter cela, donc, on crée une couverture, une apparence de normalité. Mais les personnes qui ont ce type d'orientation sexuelle souffrent beaucoup de devoir se cacher. Et ils souhaitent quand même, secrètement, que leur famille, leurs amis, sachent un jour. Et bien sûr, acceptent. Et souvent, ça se passe pas très bien le jour où on révèle, le jour où quelqu'un découvre la réalité. Alors, pour ce qui est de la France ou de l'Europe ou des États-Unis, pour le Japon, je ne connais pas l'histoire, les mouvements de publicité, de publication, de faire connaître ces activités en tant qu'homosexuel, ça a commencé dans les années 60-70, d'abord avec des femmes, puisque c'est à la suite d'une répression de femmes lesbiennes que la notion de coming out a commencé, mais bien sûr, très peu après, des hommes homosexuels ont participé aussi. Et on a maintenant, à travers le monde, cette manifestation qu'on appelle Gay Pride, bon, qui est une sorte de défilé, de manifestation joyeuse dans les rues d'homosexuels qui sont heureux, disons, de montrer publiquement qu'ils sont homosexuels. Parfois avec des déguisements, ce qui montre bien que c'est pas encore très, très clair pour tout le monde. On ne peut pas dire à tout le monde qu'on est homosexuel. Donc la Gay Pride commence en France en 1971, 70 aux États-Unis, 71 en France, donc beaucoup plus tard que Zazie. À l'époque de Queneau, l'homosexualité est encore tout à fait cachée et enfermée. Et puis, vers la fin des années 60, on a commencé à avoir des aveux publics. Alors, le premier qui a publiquement avoué qu'il était homosexuel, pas à la façon de Proust ou de Gide, en racontant un peu comme ça, mais vraiment dire publiquement « je suis homosexuel », c'est un poète qui s'appelle Robert Duncan, en 1944. Alors, personnellement, je ne le connais pas. Je connais juste son nom en tant que coming out, disons. Poète américain, Robert Duncan, D-U-N-C-A-N, en 1944. En France, ce sera un penseur, écrivain, qui s'appelle Guy Hockenheim. Je ne sais pas comment on peut le prononcer en japonais, mais il y a des livres de lui à la bibliothèque. En 1972, je vais vous écrire son nom parce que l'orthographe n'est pas évidente. Voilà donc Guy Hockenheim, et qui d'ailleurs donc fait son coming out en 1960. Ça va, tout le monde connaît l'expression coming out? Oui. En 1972, et qui mourra du sida en 1988. Alors, vous connaissez sans doute d'autres penseurs, philosophes qui sont morts du sida, à commencer par Michel Foucault, peut-être le plus connu de tous, y compris au Japon, en étant bien sûr lui aussi homosexuel. Ce qui veut dire, lorsqu'on pense à Hockenheim, à Foucault, à Roland Barthes par exemple, qu'il y avait en France, bien connu maintenant, une sorte de groupe de intelligentsia, comme on dit, de gens qui sont des professeurs, des écrivains, des intellectuels, qui sont homosexuels et qui ont fortement défendu, aidé, donc 20 ans après Queneau, la cause homosexuelle, masculine et féminine, dans ces années-là. Bon, voilà pour le thème de l'homosexualité. Je voulais faire ce point assez large, même si ça prend un peu de temps, pardon, parce que trop souvent, on évite d'en parler. Et je crois qu'on ne peut pas étudier une œuvre comme ça, ou comme Proust, ou comme d'autres, sans, disons, poser clairement sur la table les éléments de société, de pensée, de comportement et de langage. Hein, on a besoin aussi d'un certain vocabulaire pour exprimer ces choses. Je crois que Raymond Queneau a eu beaucoup de courage. À ma connaissance, Queneau n'était pas homosexuel, ou s'il l'a été, il a plutôt été hétéro, enfin bon, il était marié, etc. Mais on voit bien, le mariage n'empêche pas l'homosexualité. Donc quand je dis, à mon avis, il n'était pas homosexuel, d'ailleurs il était marié, Raymond Queneau, je ne fais que répéter exactement l'argumentaire, la défense de Gabriel. Gabriel se défend en disant « Attention, il y a nuance entre rôle d'acteur dans un club et réalité de mon orientation sexuelle. » Et d'autre part, « Je suis marié. »« Je suis marié » arrive comme une sorte de preuve, ce qu'on appelle la preuve par l'absurde. Ab absurdum, hein. Par l'absurde, c'est-à-dire je ne suis pas ça justement parce que le contraire. On sait très bien que ce genre de preuve n'est pas une preuve. Justement, ça peut être une couverture. Donc, n'importe qui vous dit je n'ai rien contre les homosexuels, d'ailleurs j'ai des amis homosexuels, mais moi-même je ne suis pas homosexuel, d'ailleurs je suis marié. Cet argument n'est pas correct, hein, du point de vue du raisonnement logique. C'est peut-être la vérité, hein, mais ça n'est pas un argument. De la même façon pour les femmes, hein, on peut évidemment considérer tout à fait le problème du côté féminin. Donc voilà pour cette situation et cette problématique, hein, ce questionnement sur l'homosexualité. Alors, comment ça se passe avec une petite fille qui entend derrière la porte le mot qu'elle ne connaît pas et qu'elle déforme tout de suite, parce que je ne pense pas que Gabriel et Pedro aient utilisé un mot qui serait homosexuel. Je pense qu'en effet, ils ont dit homosexuel. Mais à travers la porte, Zazie a entendu un truc, hein, un son, et elle l'a répété en disant « homosexuel ». Elle demande à Marceline, Marceline lui dit « c'est un homme qui met des blue jeans ». Or, bien sûr c'est contextuel, contextuel parce que Zazie vient de mettre un blue jeans, comme on dit. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait ce blue jeans ? Revenons en bas de la page 63, l'avant-dernier paragraphe. Zazie se regardait dans la glace en salivant d'admiration. Pour aller bien, ça, on pouvait dire que les blue jeans lui allaient bien. Elle passa ses mains sur ses petites fesses moulées à souhait et perfection mêlées et soupira profondément, grandement satisfaite. Qu'est-ce qui est écrit dans cette phrase ? D'abord, en 1959, dans une époque encore très pudique, hein, où même parler d'homosexualité est un petit peu interdit, on écrit une expression comme « elle passa ses mains sur ses petites fesses moulées à souhait ». C'est une expression très érotique, qu'on trouverait dans un livre, disons... vendu sous un sachet fermé. Hein, encore aujourd'hui, dans les librairies japonaises, hein, tous les livres ne disent pas tout, ne montrent pas tout. Donc, cette expression, elle passa ses mains sur ses petites fesses moulées à souhait, est une expression qu'on peut dire érotique hein, dans sa forme, en utilisant par exemple le mot fesse et autour du mot fesse deux adjectifs, un avant, un après, petite fesse dont on sait la valeur érotique, hein, le fait de dire quelque chose petit et bien sûr mignon, ce qui se traduira en japonais par kawaii, des choses, et ensuite mouler à souhait. Moulé à souhait. Alors moulé, ça veut dire que le tissu colle exactement à la forme du corps. Et à souhait, ça veut dire au maximum que l'on puisse souhaiter. Donc au sens du désir sexuel, du désir érotique. Érotique plus que sexuel, peut-être, mais bon, peu importe. Alors, moulé à souhait, eh bien, aujourd'hui, on peut voir ça tous les jours. Tous les jours, y compris ici, dans cet institut, vous pouvez voir des jeunes filles, peut-être même des enfants, qui ont des jeans, bien, qui suivent bien la courbe du corps. C'est devenu tout à fait normal. À cette époque, on peut dire que pour une petite fille, mais aussi pour une grande fille, ou pour une femme, ce qui est décent, hein, c'est-à-dire la décence, c'est plutôt de cacher ses formes. La décence, c'est de cacher ses formes. Alors, avec beaucoup d'hypocrisie, hein, autrefois on cachait ses formes en les montrant. Par exemple, on faisait des robes avec des grands trucs comme ça, hein, qu'on appelle des robes à carême, qui était bien sûr pour cacher des formes, mais également pour révéler la taille très fine, ce qui était considéré comme très érotique. Et en même temps, la taille très fine faisait remonter le buste et donc ressortir les seins, hein, que l'on mettait bien en valeur dans quelque chose qu'on appelle décolleté pigeonnant. Hein, pigeonnant, c'est pour pigeonner, c'est pour voir au-dessus. C'était d'une banalité. Bon. Alors peut-être au 19e siècle et début du 20e siècle, avec le mouvement ouvrier, se développe une esthétique un peu contraire, faite de vêtements de travail entièrement fermés, un peu comme chez les protestants dans les tableaux de Rembrandt ou de la période justement de la peinture hollandaise. On voit tout est bien fermé, boutonné, etc. Alors, et 1950, du côté de chez Queneau, on est plutôt du côté des ouvriers, c'est-à-dire on cache ses formes. Donc l'arrivée des blue jeans américains, pour des jeunes femmes comme pour des enfants, est quelque chose de très érotique. Là, il faut bien l'expliquer parce que aujourd'hui, bah, c'est extrêmement banal, hein, évidemment. Alors, si le fait de mettre des blue jeans est quelque chose d'érotique dans son comportement, on vient de le voir avec Zazie, qu'est-ce que ça change à la phrase de Marceline ? La phrase de Marceline, à la page suivante, à la 65, Marceline répond à la question « Qu'est-ce que c'est un homosexuel ?» et elle répond « C'est un homme qui met des blue jeans. » Alors, on vient de voir le sens de blue jeans, c'est-à-dire quelque chose qui érotise le corps. Eh bien, un homosexuel, c'est un homme qui met des blue jeans, c'est un homme qui érotise son corps. Parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des femmes, de la décence et de cacher ses formes, c'est la même chose pour les hommes. Les hommes aussi doivent cacher leur forme. Qu'est-ce qui se passe avec le rock'n'roll américain qui va arriver dans les années 50 ? C'est justement une forme d'érotisme masculin, avec des centaines de milliers de jeunes femmes qui vont se traîner devant les scènes de rock'n'roll, qui vont parfois s'évanouir devant les chanteurs de rock'n'roll simplement parce que il a pris le micro et il a fait ça. Vous voyez ? Et le fait de faire ça en 1955 ou 1956, c'est extrêmement érotique. Et encore aujourd'hui, je crois que ça fait partie de la culture rock, qui n'est pas la culture rasta, qui n'est pas la culture pop, qui n'est pas la culture reggae ou d'autres choses comme ça. Donc le rock a toujours été en relation avec l'érotisme et l'érotisation du corps du chanteur et des musiciens. Voilà, on va peut-être s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. On finit en beauté, hein, avec des gestes comme ça de rocker. Et la semaine prochaine, on pourra revenir sur quelques problèmes de vocabulaire des chapitres 6 et 7. Et puis, on pourra peut-être commencer le voyage à la Tour Eiffel avec Gabriel et Zazie. Préparez vos questions si vous en avez. Et bonne semaine.